la revue de presse des hebdos.
Et c'est avec Arlette, évidemment. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
Arlette, je suis certain qu'il ne t'a pas échappé que nous sommes le 8 mars, la journée internationale des femmes.
Ouais, alors personnellement, je préfère l'appellation journée internationale des droits des femmes, donnée par l'ONU Femmes. Dans le sommaire de Télérama, je vous invite à lire l'entretien de Juliette Benabon avec Anne-Cécile Maillefer, la présidente très médiatique de l'association Oser le féminisme. Voici ce qu'elle dit sur le 8 mars. Je me dis souvent que les journées des 8 mars et 25 novembre contre les violences faites aux femmes ont été décidées pour fatiguer les féministes et les faire taire le reste du temps. À la question sur l'entrée du droit à l'IVG dans la Constitution, elle dit entre autres « La Constitution organise notre vie politique et dira, avec ce texte, que pour la bonne marche de notre société, il faut que les femmes aient la liberté de faire ce qu'elles veulent de leur corps. » Mais elle relativise le féminisme affiché du gouvernement Macron. En France, il n'y a pas de politique réelle. Éric Dupond-Moretti à la justice, Gérard Darmanin à l'intérieur ou Emmanuel Macron ne veulent pas d'une révolution féministe. Elle ajoute concernant le mouvement MeToo qui avance, mais elle questionne. Où sont les condamnés pour violences sexuelles? Leur nombre progresse à peine. Il y a des victimes, mais presque pas de coupables.
L'inscription du droit à l'IVG est aussi à la une du Canard enchaîné.
Le titre de la une, Macron soulagé, enfin un projet qui n'a pas avorté. Et façon de parler, renchérit Éric Emtaz, qui tout au long de son édito comptabilise et analyse les votes pour ou contre cette inscription. Voté par une courte majorité par le RN. Le RN compte dans ses rangs et parmi ses amis plus d'un fervent partisan de son effacement. La droite LR, elle aussi, pour le moins gênée aux entournures, par cette constitutionnalisation de l'IVG, alors que plus d'un de ses membres, et non des moindres, la désapprouvait ouvertement, s'est également efforcée de ne pas se trouver du mauvais côté de l'histoire. Sur ce sujet, dans le reste du Canard, 4 articles dans la mare et 4 dessins en parlent. En page 4, un article traite un nouvel épisode de MeToo ciné, côté garçon, qui met en cause Dominique Boutonnat, le patron du CNC, bien en cours auprès du président Macron. En page 5, un long article raconte la chasse que subissent les nouveaux écureuils, les opposants à la 69. Et encore plein d'autres choses à lire pour vous faire sourire ou pour vous faire fulminer.
Et la lecture du 1 cette semaine, t'a-t-elle fait fulminer?
Eh bien non, ça m'a plutôt désolée. Qui peut arrêter Trump? C'est la question posée à la une au-dessus d'une caricature signée François Maumont. Il y en a 3 autres sur le poster. Alors je ne sais pas si ça vous fait ça, mais quand je vois Trump à la télé, j'ai déjà l'impression de regarder une caricature. En couleur, en plus jaune les cheveux, orange la peau, les doigts boudinés, des petits yeux cruels. En page 4, scellé dans son papier tromperie, s'écrit « Non à la Trumpophobie ». Le seul but de cet homme est de rendre l'Amérique grande à nouveau. Où est le mal? En le lisant, vous comprendrez bien que c'est du second degré. Regardons de près ce qu'en pensent les intervenants de la semaine. D'abord, Julien Bisson dans le Zakouski. Battu et condamné à l'oubli il y a 3 ans, l'ancien président fait un retour tonitruant sur la scène politique américaine malgré ses nombreuses casseroles judiciaires. À 8 mois de l'élection, tous les éléments sont réunis pour une nouvelle crise politique. Colum McCann, écrivain irlando-américain, a du mal à comprendre. Pourquoi celui qui devait appartenir au fantôme de notre histoire est-il de retour? À la fin de sa longue interrogation, il conclut désespéré. Aujourd'hui, nous n'avons le choix qu'entre 2 vieillards. Je veux croire que demain, nous allons nous réveiller et voir une jeunesse différente émerger. Thomas Negaroff, historien et journaliste, brosse un tableau alarmant de la situation politique des États-Unis, diagnostiquant non seulement une fossilisation, mais aussi un crash de leur démocratie. Sylvain Sipel, journaliste sur le poster, décrypte le programme radical élaboré par l'Heritage Foundation, un think tank ultra-conservateur sur lequel pouvait et pourrait s'appuyer Trump une fois au pouvoir. Terrifiant. Le projet 2025, sous-titré « Le mandat pour gouverner, La promesse conservatrice déroule sur plus de 900 pages ce qu'il nomme sa « Bible politique », les mesures qu'un futur président américain devra imposer durant la première année de son entrée en fonction. Alors je ne voudrais pas vous affoler, mais plus loin, Sipel, qui a lu les 900 pages, nous en livre quelques détails. Je les cite. La promesse conservatrice se préoccupe aussi des us et mœurs qu'il convient de faire régner aux États-Unis. Ainsi, le projet 2025 veut faire prévaloir le message selon lequel l'Amérique doit rester chrétienne et le christianisme jouir d'une place privilégiée dans la société, le gouvernement devant prendre les mesures nécessaires pour s'en assurer. Les évangélistes sont à la manœuvre, on peut le constater ici et encore. Sans surprise, désormais, chaque État américain devra donc indiquer précisément le nombre des avortements pratiqués sur son territoire, quel âge avait le fœtus, pour quel motif, par quelle méthode, ainsi que l'état de résidence de la mère. Mais ce n'est pas terminé. L'idéologie transgenre assimilée par Kevin Roberts, président de ce think tank, a assimilé à de la pornographie. Mais qui va arrêter Trump? Eh bien, peut-être Taylor Swift. Cette chanteuse, autrice, compositrice de 34 ans, s'est, en 2020, exprimée pour les droits de la communauté LGBTQI+. Elle affiche son intention de voter pour Biden contre Trump. Son compte Instagram compte 282 millions de followers quand même. Cerise sur le gâteau, Swift s'affiche depuis quelques mois au bras de son nouveau boyfriend, le footballeur Travis Kelce, qui vient de remporter le Super Bowl avec son équipe, les Kansas City Chiefs. Eh bien oui, on est en Amérique, tout est possible.
Une femme, une chanteuse qui pourrait éviter à l'Amérique un désastre politique, bah c'est super.
Bah ouais.
France, avortement, un moment historique, c'est sur le bandeau de Courrier International.
Et à lire, page 16, en intégrant la liberté garantie d'avorter dans sa constitution, la France veut donner l'exemple. Une dimension historique qui imprègne tous les discours politiques, écrit Paul Ankerman dans Le Temps de Genève, en page 14 de Boston, The Christian Science Monitor. Colette Davidson analyse, elle, le MeToo cinéma français. Les demi-dieux vacillent, mais les témoignages de violences sexuelles se multiplient ces dernières semaines, mais le cinéma français peine à leur donner un écho. Page 15, petite revue de la presse étrangère intitulée « L'époque des Lolitas est terminée ». Mais ce qui est à la une du courrier cette semaine, sur une photo floue d'un trousseau de clés, ce sont des lettres de Palestine. Claire Carrard explique ce choix. Alors que depuis quelques mois, de nombreux artistes palestiniens ont été censurés et des expositions annulées partout dans le monde, il nous semblait important, à Courrier International, de faire entendre ces voix palestiniennes qui disent leur attachement à leur identité, à leurs racines, au moment où leur existence même semble plus que jamais menacée. Dans ce numéro, nous avons voulu construire les choses différemment, patiemment. Nous avons rassemblé des tribunes, des interviews parues dans la presse étrangère autour d'une seule idée. Qu'est-ce qu'être palestinien aujourd'hui ? Sortir de l'invisibilisation, redonner un visage, une voix, raconter des destins individuels au milieu d'une histoire collective. Voilà l'intention éditoriale de ce dossier. Marwa Daoudi, Mohamed Jabali, Narwan Darwish, Injoudet, Adarn Rouhana, Noura Erakat, Mohamed El Kurd, Nour Indi. Les textes rassemblés ici donnent à voir la diversité, la vitalité et la richesse de la culture palestinienne. Ils disent la douleur de l'exil, les fantômes de la Nakba, la beauté de l'écriture, la nostalgie, mais aussi les moments de joie, l'attachement à la terre et à la solidarité d'un peuple. Alors retrouvez leurs textes de la page 42 à la page 56.
Décidément, l'Express semble très intéressé par les mystères, les histoires d'espions. Le titre sur la couve, Les secrets des lieux de pouvoir, est bien alléchant.
C'est dans le dossier. Ailleurs dans l'Express, pas un seul mot sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, ni sur la célébration du droit des femmes aujourd'hui. Bon, alors quels sont les lieux de pouvoir, ces lieux de pouvoir si mystérieux? Le bureau qui rend fou de l'Élysée? La ruche de Matignon? le fort de Brégançon, les chasses présidentielles, mais aussi la brasserie Lippe, Saint-Germain-des-Prés ou la tribune du Stade de France. Rarement palais, hôtels particuliers, résidences, cercles et cantines influentes n'auront été aussi finement scrutés. Des entrailles du bunker PC Jupiter jusque dans les airs, à bord de l'avion présidentiel. Sous la direction de Sébastien Le Foll, ex-directeur de la rédaction du Point, les lieux du pouvoir, chez Perrin, dévoilent une histoire secrète et intime de notre République. Cet ouvrage collectif réunit la fine fleur du journalisme. Je vais vous donner un petit aperçu des extraits de cet ouvrage écrit par la fine fleur du journalisme.
On t'écoute, Arlette.
À l'Élysée, les mystères de la salle des fêtes, la pièce la plus prestigieuse du palais a vu défiler des centaines de personnalités et chefs d'État et a été le théâtre de rencontres secrètes. L'histoire est taquine. Emmanuel Macron salue Valéry Giscard d'Estaing, non loin de là, où un soir de mai 1981, ce dernier prit congé de ses concitoyens avec son inoubliable « au revoir ». La suite dans le dossier de l'Express, c'est rigolo, certes, mais certainement pas indispensable.
Par contre, les conseils de l'astrologue Rob Brezny aux poissons sont carrément indispensables.
Enfin, tout au moins autant que le dossier de l'Express. Bon. À ce que m'en disent les astres, poissons, certains milieux, compagnons de route et influences, stimulent ton intelligence émotionnelle, ton bien-être spirituel et ta capacité à aimer, tandis que d'autres ont sur toi un effet inverse ou aucune incidence. Si cette théorie est la bonne, je te conseille de mettre les prochaines semaines à profit pour distinguer clairement les milieux, influences et compagnons bénéfiques que tu souhaites laisser pénétrer dans ta sphère intime. Il te reviendra alors de t'en rapprocher et de délaisser les autres. Alors tu rayonneras de tes mille feux sur ton entourage.